Vous écoutez l'épisode 110 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Imaginez un monde où votre Chromebook vous comprend encore mieux et facilite votre vie quotidienne d'une manière que vous n'aurez jamais cru possible. Ce monde n'est plus un rêve, mais une réalité grâce à la dernière mise à jour de Chrome OS. Découvrons ensemble toutes les nouveautés qu'apporte Chrome OS dans sa version 113 qui promet de transformer votre expérience utilisateur. Puis, nous partirons à la découverte des dernières nouveautés et évolutions de Chrome pour finir, comme d'habitude, avec les Google News et évidemment nos coups de cœur. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu ?
Salut Nico, salut tout le monde, ça va très bien et toi ?
Eh bien écoute, ça va très très bien, surtout qu'on a commencé l'émission sur les chapeaux de roue avec Jean-Luc qui nous gratifie encore une fois d'un super autocollant. Je l'ai affiché direct avant même que l'émission ne commence, il est passé sur l'émission alors qu'on était dans les préparatifs et paf, il nous a soutenus avec un super autocollant. Alors si vous voulez faire comme lui, hein, si vous voulez nous soutenir, soutenir le travail que nous faisons au quotidien, bah, vous pouvez sur YouTube comme faire un super autocollant où il y a plein de super trucs sur YouTube, vous cliquez dessus et puis ça nous permet d'être soutenu et d'apporter un petit peu de l'eau à notre moulin. Ou alors, bah, vous pouvez faire comme Alain Chabel qui vient de débloquer la suppression de la publicité sur mychromebook.fr, les avantages exclusifs en devenant un gros membre soutien sur patreon.com/mychromebook. Il nous, pareil, comme Jean-Luc, il nous gratifie d'une belle petite prime pour notre travail et je le remercie énormément. Alors, si vous appréciez notre travail, vous pouvez faire comme Alain, comme Jean-Luc, comme tous ceux qui nous suivent sur Patreon et vous rendre sur patreon.com/mychromebook. Alors, ça coûte quelques euros. Hein. Vous pouvez le faire une fois de temps en temps. Vous pouvez l'activer, le désactiver, revenir, partir pour remplacer ceux qui sont partis ou inversement. Bref, je ne sais pas comment commencer une émission quand ça commençait aussi fort que ça. N'hésitez pas à nous soutenir. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, on a un programme hyper chargé, Sylvain. Et avant de partir dans le programme, on va peut-être dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. On a Romain, salut. On a Didier, on a Mesiana, on a Live Athenium, on a Jean-Luc qui est passé rapidement et puis les autres qui nous ont pas encore dit coucou. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et on vous fera aussi un petit geste de la main pour tout ça. Faudrait bien montrer le bug, Sylvain, le mug. Ah oui, le mug. Bah oui, la mug, bien sûr, évidemment. Ah, ça à l'envers, moi. voilà. Bonsoir.
Il y a du vrai thé hein, dedans. Il y a vraiment une boisson, je tiens quand même à le préciser.
Oui, il y a une boisson, oui. Un érichetier ? Non, c'est pas ça.
Je ne suis pas sûr de finir l'émission, sinon.
Je veux bien le croire. Alors, on va aller direct faire un petit clic gauche sur le conducteur parce qu'on a un programme super chargé, Sylvain, et on va commencer par Chrome OS 113, puisque Chrome OS 113 est enfin arrivé sur la plupart des Chromebooks, hein, tu me disais, ouais. Et on voulait aborder les quelques nouveautés qui allaient enfin changer notre vie peut-être sur Chrome OS et les Chromebooks. Et la première nouveauté que tu voulais mettre en avant, me semble-t-il, c'est une nouvelle notification ou des nouvelles notifications sonores qui nous préviennent quand certaines actions arrivent sur son Chromebook. Est-ce que tu peux nous en faire un petit peu l'article?
Exactement. Alors, la version 113, elle est arrivée pour la plupart des gens il y a une semaine, voire plus. Donc, vous avez largement eu le temps de la tester. Et Chrome OS a indiqué effectivement des notifications sonores par rapport à l'état de charge de ta batterie. En gros, tu as des sons qui t'avertiront si tu branches l'appareil. Si ta batterie, par exemple, tombe en dessous de 15%, si tu le débranches et si c'est chargé à moins de 15%. Donc, tu as pas mal de sons. Ça va respecter tes paramètres de volume et tu peux également le couper si tu le souhaites. Voilà, c'est une petite aide au quotidien qui peut te permettre de dire, un peu comme la dernière fois où j'ai dû brancher le chargeur en catastrophe à la fin de l'émission. Je crois que c'est il y a 15 jours. Vous m'avez pas vu, je me suis jeté sur le chargeur où je me suis rendu compte qu'effectivement, il me restait genre 1% et qu'il restait très peu de temps. Donc voilà, c'est une petite aide au quotidien qui peut vous aider et vous sortir ça de la tête et attendre que la notification arrive.
Ouais, je sais pas si tu l'as déjà entendu. Moi, j'ai eu le cas dernièrement et ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à entendre un signal sonore et je me suis retourné, j'ai cherché pendant quelques minutes en me disant mais d'où vient ce bruit ? Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas représenté. Donc, j'ai cherché un petit moment avant de comprendre que c'était Chrome OS qui avait fait sa mise à jour. C'est pas mal. Je vous aurais bien fait écouter les sons, mais je me suis loupé dans l'enregistrement des sons. Alors, du coup, vous ne les entendrez que lorsque votre Chromebook vous les notifiera. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. un peu semblable.
Ouais,
À
c'est
ce...
ça. Si
Oui,
tu coupes le son du Chromebook, bah, ça va te les couper également. Hein, ça respecte ce que tu fais. Puis en fonction du volume, si tu es dans un endroit où tu veux qu'il y ait un peu de son, mais pas très fort, c'est pareil. Voilà. Tu n'auras pas une grosse sonnerie d'un coup qui va dire attention, batterie, c'est pas le cas non plus. Mais c'est
voilà, donc
pratique.
intéressant. Dites-le nous à chaque fois dans chacune des différentes étapes qu'on va mettre en avant ce que vous en pensez et si vous êtes heureux qu'elles arrivent. Donc ça peut être intéressant. Ah, il y a Didier qui nous dit son de charge et ta batterie en activant le flag Enable Power Sound. Ça fonctionne sur Flex également, donc Chrome OS Flex qui est un portage de Chrome OS sur les anciennes machines. Donc hyper intéressant. J'ai pas eu de son, nous dit Live Athenium. Ah, étonnant. Donc, vérifie que tu es bien en Chrome OS 113 et peut-être activer le flag, nous dit Didier. Pourquoi pas? Autre évolution.
Live, il le charge tout seul par sa présence. C'est pour ça, tu vois. Ça descend jamais en dessous des 15%. On le sait
C'est
très
ça,
bien.
ouais. Bah, l'énergie cinétique, de toute façon, est bien connue. Hein. Et
Exactement.
certains en produisent plus que d'autres. On
C'est
me dit
ça.
que je brasse beaucoup d'air, mais moi, je dis que je fais de l'électricité. Bon, c'est une autre histoire. Autre notification intéressante également, c'est alors je ne sais pas si tu l'utilises, mais je crois que tu non. C'est l'arrivée de l'application dans l'application Cursive, tu sais, l'application de prise de notes créée par Google pour Google sur les Chromebooks. C'est vraiment l'application qui marche le mieux, je dirais, avec un stylet USI. Et donc je l'utilise très souvent. Et du coup, quand Google a annoncé cette évolution, je me suis jeté sur l'application parce que Cursive s'améliore encore et apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. Alors attention, on n'est pas dans un truc révolutionnaire, on est simplement sur des présentations de nouvelles options de personnalisation de l'écriture. Typiquement, tu vas pouvoir écrire avoir plus de styles d'écriture, plus de couleurs d'écriture et surtout des surlignages différents, de la couleur différente. Tu vas pouvoir personnaliser ta couleur. Donc c'est une évolution. Je dirais à la marge, mais si vous utilisez l'application Cursive, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça apporte un petit plus à ton écriture et ça commence à faire une belle application. On peut segmenter, on peut déplacer des bouts de texte, on peut rajouter des images. Et franchement, au fur et à mesure, testez-la. Vous allez voir, c'est vraiment hyper sympa à tester. Si vous ne l'avez pas installée ou si elle n'est pas disponible sur votre Chromebook pour X raisons, que tu l'aies effacée, peut-être, Sylvain. Tu peux aller sur la page web qui s'appelle Cursive, donc Cursive.apps, apps.chrome, et tu as accès, donc tu n'as pas besoin de télécharger quoi que ce soit, c'est une PWA, donc faut pas hésiter à le tester, vous verrez, c'est marrant et ça marche au doigt également, hein, donc quelque chose de plutôt sympa à mon goût, j'aime beaucoup cette solution logicielle que Google nous propose, elle n'est pas encore aussi complète que ce qu'Apple peut proposer, mais ça va venir prochainement. Je sais pas, tu l'utilises toujours pas, c'est pas quelque chose, t'as toujours pas de stylet d'ailleurs.
Si, j'en ai un.
Ah, bravo.
J'en ai un avec le Spin 13 qui est intégré. Donc, alors, je ne l'utilise pas au quotidien, non. J'ai testé et je teste un petit peu les évolutions. Je ne suis pas vraiment la cible par rapport à ça. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que dans un écosystème, d'avoir une application native qui est là et qui existe, effectivement, petit à petit, on l'a développée. Ce n'est pas forcément encore au niveau de la concurrence, mais c'est en bonne voie et il ne la délaisse pas. Donc,
Ouais.
effectivement, à voir et suivre. Mais je vais essayer un petit peu plus quand même,
Ouais,
histoire de
essaye, tu vas
voir.
voir, c'est
J'ai
intéressant.
beaucoup de mal à passer au stylet. C'est une catastrophe. Je commence déjà à me mettre un peu au tactile, mais c'est vrai que ce n'est pas des usages pour lesquels j'ai l'habitude.
Bah écoute, vas-y, essaye. De toute façon, le tactile, on va en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin pour la prochaine évolution de Chrome OS, de toute façon, puisque Google, tu le sais, a rendu disponibles les applications Android depuis 2016, si mes souvenirs sont bons. Et donc, depuis 2016, on a accès au Google Play Store et on peut télécharger des jeux. Mais il y avait un mais, justement, parce que jouer sur un Chromebook avec un clavier, une souris, à une application dédiée uniquement au tactile était plutôt compliqué. Google nous a proposé une solution hyper intéressante parce que depuis quelque temps, on peut enfin utiliser le clavier de son Chromebook pour diriger tout ça, diriger ton petit personnage, ton jeu. Mais malheureusement, les touches, ce n'est pas forcément celles que nous aimons. Et je sais que toi, quand tu joues, en plus, tu personnalises tes touches. Et apparemment, ça va être possible.
Ouais, j'aime bien personnaliser parce que j'ai des touches que j'utilise pour le déplacement que les autres, en règle générale, n'utilisent pas. Donc, dans tous les jeux, je suis obligé de personnaliser. Ils ont amélioré la partie mappage des repositionnables, des commandes de jeu. C'est la version Game Control qui est en alpha sur Chrome OS. Et ça te permet, en fait, effectivement, de jouer à des jeux Android avec le clavier Chromebook. Tu vas pouvoir personnaliser beaucoup plus facilement tes touches. Tu vas pouvoir avoir une superposition de menu pour pas gêner les jeux. Enfin, voilà, tu vas vraiment avoir un confort et une utilisation du jeu qui est beaucoup plus optimisée qu'elle ne l'était auparavant. Tous les jeux ne sont pas disponibles, hein. Pour l'instant, tu vas avoir du Geometry Dash World, tu as du Geometry Dash Well Done, tu as du Stumble Guys, tu as du Sub-Zero, voilà. Tu as quelques jeux. En fait, n'oublions pas que ça reste un peu ça reste de l'alpha, donc ils vont petit à petit développer, améliorer. La liste des jeux va être de plus en plus grande. Et je pense que ouais, d'ici quelques mois, on sera quand même dans quelque chose qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif, mais c'est bien déjà de le faire parce que quelqu'un comme moi, ça me facilite grandement la vie.
Ouais, et pour le faire, c'est hyper facile, hein. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le tester. Alors moi, j'ai téléchargé un des jeux que tu as dit. Et quand tu ouvres ton application, déjà, tu peux la passer en plein écran. Donc ça, c'est déjà pas mal. Tu n'es pas juste dans une petite fenêtre Android qui
Exactement.
représente la taille d'un écran de smartphone. Donc tu peux la passer en plein écran. Pour la plupart de ces jeux, en plus, ils prennent tout l'écran. Ça, c'est plutôt bien. Et
Ouais.
comment? Et derrière, donc quand tu l'ouvres, il y a une petite icône qui apparaît à droite de ton écran qui représente une petite manette de jeu. Et dans cette petite manette de jeu, ben, tu cliques dessus et tu accèdes à un clavier, enfin à toutes les touches. Enfin, il y a trois touches, hein, généralement, haut, bas, droite, gauche, hein, sauter pour certains. Tu sélectionnes la touche que tu veux modifier, tu appuies sur la touche clavier que tu veux attribuer et c'est tout. Une fois que tu as terminé, pas d'enregistrement, rien de compliqué. C'est vraiment bluffant, ça marche super bien. Et je suis plutôt content, moi j'attends de voir ça sur les jeux que j'aime bien jouer au quotidien, mais à
Ouais, il
voir.
teste sur. En fait, il teste sur des jeux qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de touches de base.
Ouais,
Parce
pour
qu'après, tu
l'instant,
as
oui.
des jeux, quand tu commences à avoir des jeux avec des sorts, des magiciens et ce genre de choses, bon, bah, il t'en faut un petit peu plus. Moi, c'est un bon rapprochement entre Android et Chrome OS. On est quand même sur la même boîte et du univers. Donc, si il facilite et que ça permet d'avoir quelque chose en grand écran avec des touches personnalisées et que tu peux vraiment t'éclater, ils ont totalement raison d'aller vers ce sens-là, je pense, et d'améliorer ça petit à petit.
Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on est sur une continuité, comme tu le dis très bien, de ce que veut faire Google, c'est-à-dire d'amener de plus en plus les jeux vidéo dans les Chromebooks et dans Chrome OS. On le voit avec Steam qui va être installable en local pour pouvoir jouer localement et non plus sur Internet à ces jeux. Ils ont énormément poussé Nvidia GeForce Now. Ils ont travaillé avec Xbox Cloud, Boosteroid et compagnie. Donc on voit que le Chromebook n'est plus considérer qu'on a un produit de productivité, mais un produit de gaming pour jouer et s'amuser, puis se détendre. Donc ça, moi, je trouve ça très, très bien.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Parce qu'on sait qu'il y a la fermeture de Stadia et RIP Nico. Mais par exemple, pour Boosteroid, moi qui est la solution que j'utilise sur Chromebook, parce qu'ils permettent de virtualiser les jeux Windows, Blizzard principalement. Et en fait, ils ont énormément aidé Boosteroid sur la partie serveur, en s'inspirant également des technologies utilisées pour Stadia. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas voir visuellement dans Boosteroid. Tu n'as pas l'impression qu'il y a du Google là-dedans. Mais le fait que Boosteroid soit fiable, stable, bah en partie, alors ils ont un partenariat avec Microsoft qui a été signé sur 10 ans, mais la partie serveur est énormément aidée et financée par Google. Donc forcément, bah ça amène de la stabilité parce qu'on sait qu'ils sont bons dans ce domaine-là.
Ouais, tout à fait. Ouais. Vraiment une belle évolution. J'applaudis parce que c'est vraiment intéressant au quotidien. On continue. Alors parce que tu l'as dit, c'est une version Game Control alpha. Hein, donc
C'est
on
ça.
sait que c'est Google. Il y a de l'alpha, il y a du bêta, il y a du canari, il y a des choses qui peuvent générer des conflits, des petits bugs au niveau de son Chromebook. Et en l'occurrence, Google est peut-être l'un des seuls système d'exploitation avec Chrome OS, à vérifier, dites-moi dans le chat si je me trompe, mais c'est peut-être le seul système d'exploitation à te donner la possibilité d'envoyer un commentaire à l'équipe de développement depuis ton Chromebook. Alors ça, moi, je trouve ça génial, je le fais très très souvent quand on me demande, ah tiens, je fais ça, je n'y arrive pas, si moi, je n'arrive pas à trouver la solution, je l'envoie donc au développeur de Chrome OS. Pour ce faire, jusqu'à présent, tu sais, t'appuyer quelques secondes sur le bouton Power de ton Chromebook, ça ouvre une espèce de petite boîte de dialogue. et tu cliquais sur signaler ou commenter ton problème. Et là, dans la version Chrome OS 113, on a enfin un bouton qui vient s'ajouter un petit peu ailleurs, puisque tu vas pouvoir le retrouver dans la partie paramètres de Chrome OS. Là, par exemple, pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai fait un test, je cherchais un truc qui s'appelait gaming, je ne sais plus exactement. Et évidemment, je ne l'ai pas trouvé puisqu'il n'existe pas. Et dans ce cas-là, j'ai fait simplement ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur signaler ce résultat de recherche en disant à Google, hey, je n'ai pas trouvé le système de recherche, l'application que je cherchais dans les paramètres. Et ça a été rajouté, alors vous le verrez peut-être plus tard, mais ça a été rajouté, ça a été pris en compte parce que ce n'était pas dans les paramètres. Donc cette fois, avec un flag à activer encore, hein, OS Settings Search Feedback, vous activez ce flag, vous pourrez signaler les résultats de recherche qui sont pas là ou malencontreusement mauvais. Je ne sais pas si tu as déjà signalé, Sylvain, des choses.
Alors non, je pense que ça doit exister sur certains distribs Linux de mémoire. Je ne pourrais pas t'en citer, mais je pense que c'est le cas. Moi, j'ai une petite question. Toi qui l'as utilisé, quand tu le fais, est-ce que tu as genre comme un accusé réception, est-ce que tu as un suivi de l'évolution de la requête que tu as faite? Est-ce que non, c'est vraiment une information.
C'est ça, tu envoies. Alors, j'ai eu une fois un retour développeur qui me posait une question supplémentaire.
D'accord.
Mais la plupart du temps, alors peut-être que je signale mal les choses, hein, peut-être que je fais mal le travail, hein, c'est possible aussi. Mais quand je signale, j'ai aucune solution, enfin j'ai aucun retour, je peux pas suivre l'évolution de ma requête. Et adviendra qui pourra après, mais ça reste intéressant.
Ça peut être une petite piste d'évolution si Google nous entend pour c'est avoir ça. Un petit peu plus de visibilité sur les requêtes qui sont remontées.
Et ce qui est bien, c'est quand tu signales, parce qu'on n'a pas toujours les bons mots. Clairement, on n'est pas développeur, enfin en tout cas, moi je ne le suis pas, et j'ai peut-être pas forcément la bonne tournure de phrase ou le bon mot pour expliquer. Ce qui est bien, c'est qu'il te demande si tu veux activer une capture d'écran de ton problème en fait. Et généralement, quand tu signales un problème, c'est que tu es dessus. Donc, tu cliques dessus, ça screen ton écran et ça l'envoie directement. Donc, ce qui permet aux développeurs, j'imagine, de mieux comprendre ta problématique. Et ça, c'est intéressant, je pense, parce qu'un dessin vaut 1000 mots. Et en l'occurrence, une capture d'écran, ça vaut toujours plus que le texte que je peux leur donner, en fait.
Ouais, puis toujours être proche de ses utilisateurs, des divers problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Même si, la communication derrière, il n'y a pas forcément de suivi. Mais déjà, la possibilité de pouvoir le faire, c'est déjà une bonne chose. Tu peux très difficilement le faire, à mon avis, sur d'autres écosystèmes, donc c'est à mettre en avant.
Ouais. Je reviens dans le chat un petit peu. Il y a Tutek qui nous dit qu'il utilise principalement sur son Chromebook pour jouer xCloud et Boosteroid. Donc, comme toi, Boosteroid, apparemment, c'est exceptionnel. Alors, moi, je me suis abonné également pour tester. J'arrive pas du tout à Overwatch. Je suis très, très mauvais sur Boosteroid, mais je l'ai installé en claquement de doigts, comme tu me l'avais dit, Sylvain. Vraiment, hyper simplement.
Si tu es mauvais sur Overwatch, c'est un autre débat. Je pense pas que ça soit lié à Boosteroid.
Non, pas du tout, je pense pas.
Non, en fait, tout simplement, vous avez la plupart des jeux qui sont sur Steam, sur Epic Games et autres, et vous pouvez lier des comptes. Mais pour les virtualisations de jeux Windows, en gros, quand vous lancez le jeu, ça va vous demander, tu vas avoir une machine virtuelle de Windows, ça va demander où est-ce que tu veux installer le dossier. Bon, tu cliques là où tu veux. Et après, ça ne te le charge pas localement, ça le charge sur leur serveur. Et ça ne va pas te le demander à chaque fois. Tu l'installes une seule fois. Et après, derrière, c'est bon. Et tu peux jouer directement. Moi, j'ai testé du World of Warcraft, j'ai testé du Overwatch. J'ai eu un problème sur ma machine Windows il y a quelques jours. Donc, je me suis passé une soirée complète sur Overwatch d'une fluidité absolue. Parce qu'on voit derrière qu'il y a de la grosse carte graphique. Du moment que tu as une bonne connexion Internet, vu que c'est du cloud gaming, tu es dans de bonnes conditions.
Ouais, moi je joue à xCloud, plus simple pour moi, c'est des jeux plus accessibles, moins nerveux et ça me va très très bien en tout cas. On continue, une autre évolution qui me semblait exister auparavant et en y réfléchissant bien, je me suis aperçu que non et c'est étonnant que ça ne soit pas apparu dès le départ. Il arrive très souvent que j'envoie des fichiers de mon Chromebook vers le Google Drive parce que mon Drive est pour moi mon espace de stockage, mon espace de sauvegarde, de partage également. Je ne stocke que les choses qui me semblent peu importantes sur mon Chromebook au cas où je le perde ou au cas où pour X raison il casse ou on me le vole. Je ne stocke quasiment rien sur mon Chromebook, donc j'envoie toujours tout sur le cloud de Google, en sachant qu'on a 100 gigas offerts la première année avec un nouveau Chromebook, donc faut pas hésiter à le tester. Mais j'avais un problème, c'est que des fois, j'envoie des fichiers étonnamment lourds, des fichiers, ceux qui voient sur la capture d'écran. J'ai fait une vidéo sur une prise, une serrure connectée. Cette vidéo, elle fait, je sais pas, elle doit faire quelque chose comme 600 mégas. Alors, c'est une petite vidéo de quelques minutes, hein, c'est peu. Le problème, c'est que je ne sais jamais où j'en suis, où j'en étais quand j'envoyais mon fichier de mon Chromebook à Google Drive. Problématique importante, parce que si je viens atteindre mon Chromebook alors que ce n'est pas fini, ça devient compliqué. Bonne nouvelle, Google, je pense que tu as déjà rencontré ce problème-là, toi aussi, de ne pas savoir où on était, en te disant, bon, bah, du coup, je ne fais rien, j'attends que le temps passe.
Bah, c'est ça. En fait, tu dis, je ne fais rien, je ne l'éteins pas, j'attends, ouais. Et limite, je vais me faire un café, je vais faire autre chose et je le laisse tourner. Ça, ouais, c'est assez marrant, c'est un peu comme la corbeille ou un peu comme le calendrier. Il y a des choses qui, pour moi, on est content que ça arrive, mais ça aurait déjà dû être là depuis un bon moment. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être là maintenant. Mais je suis toujours assez surpris. Ils vont parfois aller nous pondre des options ultra techniques personnalisées que peu de gens vont utiliser. Puis d'un coup, un truc un peu bateau, on va dire, et pratique, ils ne le développent pas forcément tout de suite. Donc, je suis toujours un peu surpris. Mais bon, écoute, la roadmap est faite ainsi et c'est développé.
Ouais, Romain est d'accord avec nous que c'était mal foutu parce que, évolution, on a enfin l'état de la synchronisation en ligne de l'application fichier. Quand tu fais un glisser-déposer, paf, il te dit combien de temps il reste en haut à gauche ou en haut à droite, je ne sais plus, du temps de traitement de ton image. Et c'est hyper intéressant. On l'a eu d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu télécharges quelque chose, maintenant tout en bas de ton écran, sur la barre d'étagère, tu sais, d'un petit... tu sais, un petit décompte qui apparaît sur ton écran. C'est pas un décompte, c'est une roue de chargement qui se remplit au fur et à mesure. Et là, mais ça a révolutionné les choses pour moi, parce que des fois, des fichiers d'un giga, deux gigas, où tu sais pas où t'en es, tu te dis, bon, il a fini, il a pas fini. Et ben là, ça y est, c'est enfin possible. C'est beau quand même.
Bah, imagine, tu veux faire découvrir Chrome OS à quelqu'un. Et tu lui dis, bah, regarde, je vais mettre un peu les mains dedans. Puis la personne, elle se dit, au début, je n'ai pas de calendrier. Oh, bah, je ne sais pas où en est le téléchargement. Elle va se focaliser sur un petit détail parce qu'elle va dire, oui, mais moi, dans mon OS, je l'ai. C'est ça. Donc, c'est bien. Et pour répondre à Romain, parce que Romain nous dit, j'espère qu'on va pouvoir désactiver la corbeille aussi. Grand sujet, grand débat. Est-ce qu'à terme, ils le feront sûrement? Tout dépend en fait un peu des retours utilisateurs. Maintenant, aucune certitude. Moi, personnellement, je n'ai pas l'envie que ça soit désactivable. Après, je peux comprendre que pour Romain, effectivement, il puisse le faire. À suivre, à voir. Je vais appeler Sundar juste après l'émission.
Bah, écoute, tu l'appelleras, mais moi, je suis pour qu'il l'enlève aussi. Donc, je vote sur la suppression de la corbeille et l'information aux gens, enfin, la formation des gens. Arrêter d'effacer et de croire que la corbeille, c'est un espace de stockage de au cas où j'ai oublié, j'ai mal fait quelque chose.
C'est-à-dire que zéro le droit à l'erreur. Quoi. C'est
non, ouais, mais moi, je suis comme ça, moi. Réfléchis okay, un peu.
Très bien.
Tu l'as plus, tant pis. Qu'il laisse le choix aux utilisateurs.
Je comprends ce que dit Romain, en fait. C'est vrai qu'on est passé de « il n'y a rien » à « il y a tout ». Et ce serait bien, en fait, que la personne qui est habituée à fonctionner de cette manière-là et qui n'a pas l'intérêt puisse le désactiver. Je pense que ce serait bien, effectivement.
Ouais. Mais ouais, tout à fait. Après, à voir, hein, ouais, ça a sauvé la vie, j'imagine, de pas mal de monde, hein, cette corbeille, hein, qui n'a pas supprimé par erreur sa thèse qu'il travaille depuis plusieurs
Après,
mois.
Après, je ne pense pas que ce soit très long à développer dans l'absolu, vu que c'est quelque chose qui existait déjà. Maintenant, tout dépend du nombre de personnes qui sont intéressées et un peu de ce qu'ils veulent développer par la suite.
Ouais, mais ceux qui viennent de Windows, de Mac, ils aiment tous la corbeille, en fait. Donc, c'est un moyen de draguer ce public-là. Et je pense que ça reste intéressant, même si nous, on ne l'utilise pas, je te dirais, tant pis, l'utilise pas. De toute façon, elle va automatiquement s'effacer au bout de, je vais dire une bêtise, je crois que c'est 30 jours de souvenirs. Donc, c'est pas grave. Moi, je pense à la vider régulièrement parce que je la remplis très, très souvent, en tout cas.
C'est ça.
Dernière chose sur Chrome OS 113 qu'on a pu relever, Sylvain, c'est une chose. Tiens, bah, d'ailleurs, ça fait 4 fois qu'il s'affiche sur mon écran depuis qu'on parle, en fait, parce que j'ai spolier un peu tout ce qu'on fait. J'ai un écran devant moi qui est un Chromebook, j'ai un autre écran en bas qui est tout le chat et compagnie. Et vu que j'y touche pas beaucoup, il se m'enveille en permanence. Donc c'est génial, on a un superbe écran, un économiseur d'écran qui est hyper intéressant sur Chrome OS, qui peuvent taper un petit peu partout, mais il y avait un gros défaut, Sylvain, et je crois que Chrome OS l'a enfin perçu et travaillé.
Exactement. Dans cette dernière version, tu peux prévisualiser l'économiseur d'écran lorsque ça utilise Google Photos et Animation. Donc, tu peux déjà voir un peu à quoi ça va ressembler en cliquant sur le bouton aperçu après avoir sélectionné tes images et animations pour justement l'économiseur. Et c'est bien. C'est des petites options où, parce que très souvent, tu vas vouloir effectivement avoir quelque chose et plutôt que de dire je vais directement l'installer, prévisualiser, ça me plaît pas. C'est tout un tas de petites options que je trouve vraiment sympa au quotidien. Moi, je t'avoue que je suis de base très conservateur au niveau des fonds d'écran. C'est-à-dire que sur mes machines Windows, principalement, je laissais le seul, le même et l'unique. Et sur Chromebook, c'est le seul où j'adore que ça change tout le temps, changer, évoluer et modifier parce que souvent les images sont magnifiques. Je pourrais le faire ailleurs, mais c'est bien cette prévisualisation. Je sais pas dans le chat. Est-ce que cette option ajoutée, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que vous en tapez royalement?
Alors moi
Auquel cas.
j'aime bien une chose intéressante dans l'économiseur d'écran, c'est qu'en fait il peut taper donc soit dans la galerie de Google, qui te propose comme tu fais sûrement plein de thèmes, de thématiques différentes, et c'est vraiment très intéressant, soit directement dans ton Google Photo. Donc tu peux aller sélectionner les dossiers que tu veux voir apparaître sur ton économiseur d'écran. Et ce qui est sympa, il y en a un qui, c'est deux cordes à linge où tu vois des espèces de Polaroid qui viennent être remplis par des photos que tu aurais faites. Et je trouve ça toujours hyper intéressant parce que j'ai choisi un dossier particulier et revoir des moments de vie parce que c'est Google Photos, donc il a mes photos depuis 2006 je crois, et il me rebalance des photos et j'ai toujours un petit sourire de voir ces photos-là apparaître, et ça me remet
Bien
un petit
sûr.
peu du baume au cœur quand je vois ça, et je trouve ça sympa, donc
Ah,
j'adore.
tu peux très bien en période de Noël te dire, tiens, je vais sélectionner des photos un peu dans les Noëls précédents, rester un peu
Ouais.
dans le ton plutôt que d'avoir une plage de cocotiers qui pourrait te foutre les boules. C'est intéressant. Non,
C'est
voilà, c'est
ça.
pareil. C'est des petites options, ça va pas ch changer votre vie au quotidien sur Chrome OS, mais ça peut vous permettre de gagner en personnalisation et de pouvoir avoir un petit confort supplémentaire par rapport à ça.
C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour de Chrome OS 113. Alors, ce n'est pas une version hyper lourde. Des petites fonctionnalités qui apportent toujours un petit plus sur Chrome OS. On en a vu quelques-unes qui nous plaisaient pas mal. Et évidemment, quand on parle de Chrome OS, on parle forcément de Chrome 100, de Chrome, le navigateur Chrome. Et évidemment, quand Chrome OS évolue, Chrome évolue également avec la même numérotation. Donc, on est passé sur Chrome 113. Et là, il y a pas mal de petites choses intéressantes qui peuvent être mises en avant et qui vont apporter une qualité hyper intéressante sur beaucoup de fonctionnalités qu'on utilise déjà aujourd'hui. La première, tu me le disais, Sylvain, c'est les appels vidéo qui vont être améliorés grâce à un truc magique, une baguette magique que Google aurait développée de son côté.
Ouais, en fait, dans Chrome 113, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, Chrome 113, tout ce qu'on va vous énoncer n'est pas spécialement que sur Chromebook.
C'est ça,
Si
ouais.
vous êtes sur d'autres écosystèmes et que vous utilisez Chrome, comme à peu près 80% des gens, je crois, de mémoire, hein, à peu près
C'est ça.
75 dans ces
Ouais.
eaux-là, donc ça peut plaire à tout le monde. Ils vont améliorer la qualité des appels vidéo en réduisant la latence et en gérant mieux la bande passante. En fait, tu as un codec AV1 intégré. Donc ça te permet d'avoir des appels plus fluides et une meilleure qualité d'image. Donc, ils ont testé avec Google Meet, justement, et ça a bien fonctionné pour la V1, dans des conditions de bande passante faibles. Et ça permet en fait aux différents utilisateurs d'avoir des connexions, même enfin, qui ont des connexions médiocres, on va dire, de pouvoir passer des appels vidéo, mais ça dans de bonnes conditions. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde n'a pas forcément à ce moment-là une qualité de réseau et de débit qui soit forcément incroyable. Donc, ça permet, par exemple, par rapport à l'ancienne, ça offre, alors, la V1, ça offre une qualité supérieure de 12% avec la même bande passante. Et ça fonctionne 25% plus rapidement sur les ordinateurs de bureau.
C'est pas mal.
J'ai réussi à m'en sortir avec les chiffres et à les donner dans le bon ordre.
Dans le bon
Donc,
ordre, t'as bien mélangé.
ça, typiquement, c'est ce que j'aime bien dans le sens où c'est pas forcément visible de base. Les gens vont s'en rendre compte. Mais alors, est-ce que vraiment 7%, 10%, 12%, tu vas forcément t'en rendre compte? Non. Mais le fait d'améliorer la qualité vidéo, il y a de plus en plus de confs, d'appels vidéo et c'est bien. C'est bien d'améliorer ça.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que souvent ces applications de vidéo sont utilisées en télétravail. Et avoir, enfin, tu l'as peut-être déjà fait, mais avoir ton interlocuteur qui est figé quand il te parle dans une position pas forcément très flatteuse pour lui. Moi, je sais de quoi je parle, hein, j'étais en ADSL il n'y a pas encore si longtemps. C'est jamais intéressant, ça fait perdre le fil De la discussion, de la crédibilité à la personne qui est en face de toi. Et, ouais. Et tout le monde n'a pas une grosse connexion, comme tu le dis très bien. Même si en France, on commence à faire changer les connectivités. Et d'ici 2030, le problème sera réglé, mais c'est dans 7 ans quand même où tout le monde sera en fibre. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça me fait penser simplement à l'utilisation des applications sur smartphone. On peut utiliser Chrome sur smartphone également. Et ça ouais. peut être hyper sympa d'avoir une meilleure qualité d'image, de son. Pour simplement avoir une bonne discussion avec la personne en face de nous, comme quand on est là, nous, tout simplement. On utilise Chrome pour transférer l'information sur YouTube, sur Twitter et compagnie. Et grâce à ça, on a quelque chose de, j'espère, beaucoup mieux. Dites-le nous dans le chat d'ailleurs si c'est mieux que d'habitude ou pas. Hein, cela dit, parce que moi, je suis sur 113, enfin, je suis même sur 115. Et toi, tu es peut-être 113 si tu es en stable également. Moi, je suis en stable. Donc, dites-le nous dans le chat, n'hésitez pas à nous dire maintenant c'est moins bien, c'est meilleur, c'est pourri. Enfin bref, on en référera à Sundar.
À Sundar, ouais, je l'appelle après, donc dites-moi si vous avez des requêtes. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est que ça s'adapte aussi bien ouais. au marché particulier que professionnel. Donc, c'est des nouveaux usages, principalement depuis la Covid, qui se sont développés. Et ce qui fait que petit à petit, ils améliorent. Je pense que ça va pousser les autres également à améliorer. Voilà, donc à la fin, tout le monde est gagnant.
Ok, top. On continue. Un truc que tu vas, je suis sûr, kiffer parce que ça touche carrément au GPU. Le GPU, bon, je ne sais pas si tu voudras rentrer dans le détail, mais ça va améliorer grandement la qualité, la prise en charge des GPU sur nos Chromebooks, sur Chrome du coup, et nos Chromebooks en l'occurrence, mais aussi sur toutes les autres plateformes. Google qui intègre WebGPU directement dans Chrome.
C'est ça. Donc, en gros, GPU, c'est le processeur de la carte graphique, concrètement. Et en fait, améliore, donc ça va t'offrir une navigation plus fluide et surtout de meilleurs graphismes, parce que tu as une nouvelle API, WebGPU. Et cette nouvelle technologie, elle te permet une meilleure prise en charge des graphismes et des animations complexes. Donc, ça t'offre une expérience de navigation par nature qui est plus rapide et plus immersive. Et ça permet également davantage d'opérations GPU avec du matériel local. Voilà, et de se produire directement dans le navigateur. Concrètement, pour essayer de vulgariser, parce qu'on va dire que c'est quand même plus ou moins technique, dites-vous que ça va grandement améliorer toute la partie graphique, immersion, et que c'est quelque chose qui est une bonne chose, on va dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. C'est difficile de rentrer un peu dans le détail par rapport à WebGPU sans devenir trop technique et imbuvable.
C'est ce que tu dis. Ça va grandement améliorer la qualité graphique de nos graphismes de nos applications web. Et on en a de plus en plus. Hein. Les Chromebooks, Google pousse énormément les PWA, donc les Progressive Web Apps sur Chrome. Et cet après-midi, par exemple, j'utilisais CapCut, une application de montage vidéo qu'on retrouve principalement sur Android, sur smartphone, pardon, qui te permet de faire des petits montages vidéo très facilement. Normalement, il faut une application, donc Android, iOS et compagnie. Et sur Chromebook, en fait, ils ont rendu disponible l'application PWA. Donc, tu peux, dans ton navigateur, traiter de l'image, de la vidéo, et hyper fluide. Et ça va aussi améliorer tout ce qui est graphisme, donc la prise en charge en local. Du GPU, du web GPU, du GPU par le web, pour tout ce qui est, on en parlait au début, Bosteroid, GeForce Now, Netflix, Apple TV et compagnie. Tout ça va être amélioré grâce à ça et c'est une API qui est ouverte à tout le monde. Et si tout le monde l'intègre, ça va être sympa.
C'est ça, ça a été développé pendant plus de 6 ans. Et en gros, ça va tirer parti de la puissance de votre matériel. Donc effectivement, si tu as un ordinateur avec une bonne config, par nature, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire. Si tu n'as pas une grosse config, ça permettra quand même de fonctionner, mais ça va beaucoup mieux utiliser la puissance, l'énergie. Ça peut pousser également peut-être à aller sur parfois des Chromebooks un petit peu plus haut de gamme en termes de performance et de caractéristiques, parce que là, pour le coup, ça a du sens en termes de rendu.
C'est ça. Et non, c'est bien. C'est quelque chose d'hyper intéressant qui fait évoluer. Pardon, je l'ai pas mis, mais qui fait évoluer énormément le produit Chrome devient vraiment presque un système d'exploitation. Je serais prêt à dire que Google l'appellerait peut-être un jour Chrome. Ouais, je sais pas. J'hésite.
Mais ça reste un système parce que moi, par exemple, au travail, je suis sur Windows. Souvent, je connecte mon compte Gmail et en fait, j'ai accès à tout. Tu sais, t'as toutes les applications et tu te rends compte que t'as quand même accès à une grosse partie de l'écosystème. Et c'est intéressant parce que là, ce qu'on annonce sur WebGPU, comme on l'expliquait, ça va sortir également sur Windows, sur Linux. Alors, sur tout ce qui est Linux et Android, ça va venir un petit peu après. C'est pas dans cette version 113, mais au moins Windows et Chrome OS, ça sort de suite.
Ouais, et c'est très bien, je pense. Une nouvelle évolution également, vous l'utilisez tous déjà un petit peu sans même le savoir. Google a, depuis des années, c'est un peu ce qui fait sa marque de fabrique, ajouté des onglets sur Chrome. Donc, on n'est pas plusieurs fenêtres ouvertes. Ça, c'est Internet Explorer, je crois que ça s'appelait comme ça, où il fallait ouvrir une fenêtre pour chaque site web que tu visitais. Google a mis des onglets, ce qui nous permet d'avoir une seule fenêtre et plein d'onglets dedans. Et figure-toi que des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. On ouvre des onglets, moi particulièrement, je ne sais pas, une dizaine, une centaine, je ne sais même pas combien j'en ai sur mon truc, puisque maintenant, on peut même les rassembler en dossiers d'onglets. Alors, du coup, j'ai des onglets fermés, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un peu l'anarchie chez moi, mais Google nous propose un truc hyper intéressant pour savoir où on en est, ce qu'on a fait dans les temps, à quelle heure, quel moment et en suivant quel chemin. Et c'est ça que tu voulais mettre en avant sur la personnalisation. Alors, des onglets.
À la limite, ça, je vais même toi te laisser le mettre en avant parce que justement avec l'anarchie, moi je t'avoue, j'ai un côté très toqué. Je déteste avoir beaucoup d'onglets ouverts. C'est-à-dire, dès que j'en ai plus de 3 dans ma tête, je me dis c'est le bazar. Donc souvent, je ferme, je réouvre. Donc je trouve que c'est bien, mais je sais que toi, ça te parle. Je te laisse en parler de celui-ci.
Alors, c'est pas à proprement parler de tous les onglets que tu as encore ouverts. La nouvelle évolution, donc c'est un onglet personnalisé qui te permet de visualiser le voyage que tu as fait sur Internet. Typiquement, tu peux, donc c'est un, je crois qu'aujourd'hui il faut encore activer le flag. C'est le flag journée. Vous tapez journée hein, sur, vous allez sur chrome.com/flag. Vous cherchez journée, JOURNEYS, et ce flag ici, vous l'activez et ça vous donne l'accès à une page qui Chrome, qui c'est chrome.com/history avec un Y/journée, qui te permet de voir de voir tout ce que tu as pu faire. Tu lances une requête, typiquement comment allumer mon Chromebook. Tu arrives sur Google, évidemment, et là, tu as plein de liens. Tu cliques sur le premier lien, ouais, c'est bien. Ah tiens, un lien interne, tu cliques sur le deuxième lien à l'intérieur de ce site web qui t'amène sur un autre site web, qui t'amène sur un autre site web et ainsi de suite. T'en as visité 45, t'as eu plein d'informations différentes les unes derrière les autres et à la fin tu te dis ouais, alors, par contre il y avait un site sur lequel je suis passé vite fait, il y avait une information qui me plaisait mais je ne l'ai pas notée. History est là pour toi, Journées est là pour toi, tu ouvre donc chrome.com/historyjournée et là, tu vas pouvoir visualiser les différentes étapes de ton cheminement, ton voyage à travers un site web, à travers une requête et tu avances petit à petit pour retrouver l'information. Et je trouve ça génial parce que ça m'arrive très… Moi, j'ouvre beaucoup, beaucoup de sites web et ça m'arrive très souvent à partir d'une requête d'avoir 10, 15… plus que ça, site web que j'ai visité. Et des fois, ça ne m'interpelle pas tout de suite sur le coup, l'information qu'il y a. Et c'est à la fin, tu sais, quand on a vu 45, tu te dis, ah ouais, mais l'autre, il avait dit un truc, je n'avais peut-être pas compris. Attends, c'était ouais. Sur quoi ? Et va la retrouver, hein, l'info. Hein. Grâce à ça, tu la retrouves.
Exactement. Ouais,
t'as ta cartographie qui est faite. Pour les toquets de barre latérale, une fois que tu as activé le flag journée, tu ouvres la barre latérale de Chrome et tu vas trouver dans le menu déroulant journée. Alors, il s'appelle History dans la barre latérale et tu vas revoir toute l'historique de ta navigation à travers une requête. Donc, c'est pas la même chose que revoir tout ce que tu avais vu. En vrai, ouais. Comme ça, heure par heure. Non, c'est à travers une requête. Donc, typiquement, le lundi, tu as commencé à regarder un truc, tu n'as pas continué, mais tu reviens mercredi, tu cliques dessus. Et là, il va te dire, bah, tiens, tel jour, tu es allé là pour cette requête. Ensuite, tu es allé mercredi pour cette requête, jeudi à telle heure pour cette requête, et ainsi de suite. Je trouve ça génial. Moi, franchement, c'est une solution qui paraît peut-être bête, mais elle est vraiment géniale.
Alors, bête, non. Disons que je pense que le moment où tu en as besoin et que tu l'as utilisé, je pense que c'est difficile de s'en passer. Ça t'apporte un confort, des recherches. Ça se met dans la barre latérale et vous connaissez mon amour pour les barres latérales sur les navigateurs Internet. Donc déjà, il marque un point. Mais non, c'est bien. Il y a différents chemins, différentes choses qui se développent. Et je pense que ça va être pratique pour les gens. Alors, est-ce qu'on l'utilisera tout le temps ? Non, pas forcément. Non. Mais bon, on n'utilise pas tout le temps toutes les options d'un navigateur non plus. Mais ça a le mérite d'être là.
Ouais, essayez là, vous allez voir, c'est assez bluffant. Et des fois, tu retombes sur des vieux trucs que tu as fait il y a 10 ans, enfin 10 ans peut-être pas, mais qui s'est fait il y a très très longtemps, comme quoi Google garde des traces très longtemps de ce qu'on fait. Et c'est marrant parce que ça te permet d'évoluer dans ton raisonnement, et moi j'ai bien aimé. Ouais. Autre évolution Ah oui, bah tu vois, Didier nous dit le side panel, c'est magique et pratique. Mais oui, c'est magique et pratique parce que tu as de plus en plus de fonctionnalités à l'intérieur du side panel, donc de panneaux latéral. Pour n'en citer que quelques-unes, on peut en citer, on a les favoris. Moi, j'adore cette barre latérale parce que ça me permet d'enlever la barre des favoris de Chrome qui est au-dessus, juste en dessous de l'Omnibox. Parce que ça me prend, mon écran n'est pas très grand, donc ça me prend trop de pixels, cette petite barre de favoris tout du long. Donc déjà, je l'efface avec CTRL-SHIFT-B à chaque fois. Mais je la retrouve dans ma barre latérale. Donc j'ai les favoris. Attends, je clique pour ne pas en louper un. J'ai ma liste de lecture. Oui, je peux en mettre dedans sur ma liste de lecture. Ça, c'est génial. Parce que avant, j'utilisais Evernote, des trucs comme ça. J'en avais partout. Là, je mets tout ce que je veux là-dedans. J'ai le parcours. Donc, ah oui, c'est pas History, ça s'appelle parcours, pardon. J'ai mon flux de travail, j'ai mes notes. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je trouve ça très bien. Allez jeter un œil sur la barre latérale, panneau latéral.
J'adore et je suis encore un peu sur ma faim parce que pour l'utiliser sur d'autres navigateurs qui ont poussé l'intégration un petit peu plus loin avec des URL que tu peux ajouter et ouvrir un peu des pages web redimensionnées, voilà, il y a de très bonnes idées. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver et j'ai hâte que tout ça arrive parce que pour moi, le panneau latéral, c'est vraiment une tuerie.
Ouais, ça fait partie des petits trucs. Dans Chrome OS, dans Chrome, qui les petits plus, tu sais, les phone hub, les tot, les bureaux virtuels, c'est tous des petits trucs à droite à gauche qui mis les uns au bout des autres te font un écosystème, une solution hyper intéressante à utiliser.
Maintenant, l'idéal serait que la liste de lecture se synchronise directement sur Android. Moi, je l'avais essayé avec un flag via le Chrome, mais c'est pas du tout adapté sur smartphone. Enfin, c'est vraiment une expérience pas super folle. Mais pour moi, ça manque cette interaction. En tout cas, entre ton smartphone pour la liste de lecture et Chrome. Mais bon, ça arrivera un jour ou l'autre.
C'est sûr, c'est sûr. Continuons un petit peu, toujours dans Chrome 113, qui nous fait une petite évolution visuelle et de placement. En fait, on déplace des choses, on les met à d'autres endroits. Les extensions qui viennent dans le menu de Chrome, tu sais, le petit menu en haut à droite, le menu paramètres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Sylvain?
Alors, le menu qui est disponible, tu sais, en haut à droite, bon, toi, je sais que tu le sais, hein, mais il s'améliore progressivement. Chaque option du menu, c'est dotée d'une icône qui la représente et certains sous-menus sont maintenant plus accessibles. Donc, par exemple, si tu veux gérer les extensions, tu peux simplement cliquer sur extension dans le menu Chrome au lieu de parcourir sur le menu, cliquer sur plus d'outils, puis gérer les extensions. On te rappelle, souvent, il y avait un trajet, un chemin qui était quand même un petit peu… quand tu étais habitué, ça allait, mais c'était parfois un petit peu long pour pas grand-chose. Donc là, tu peux y aller plus rapidement. Et Google a ajouté un raccourci vers le Chrome Web Store dans ce nouveau menu. Donc ça te permet de trouver plus facilement et plus rapidement des extensions qui peuvent te plaire ou que tu as envie de tester.
Non, mais c'est bête, hein, mais le Chrome Web Store, déjà, je ne connais pas l'URL du Chrome Web Store. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la retenir. Et le fait de l'avoir dans le menu de Chrome me permet d'y aller plus vite. C'est con comme truc, mais du coup, j'hésite plus à y aller, je passe par là. Et toutes ces petites icônes sont vraiment sympathiques parce qu'elles sont très représentatives de chaque fonctionnalité. Alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, j'ai fait une petite capture d'écran de ce que j'ai sur mon Chromebook. On voit plein de choses qui apparaissent. Hein. Par exemple, il y a Google Translate qui s'est fait une petite passe aussi dans le menu paramètres qui n'était pas avant. Les paramètres et plus d'outils se sont séparés également. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui ont évolué. Moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et pareil, il y a un truc qui s'appelle favoris et listes qui est apparu, qui a changé de nom en tout cas. Bref, plein de choses super sympas.
C'est simple, c'est efficace, ça te permet de gagner du temps. Voilà, et le temps, c'est du confort sur un écosystème.
Ouais, il y a Didier qui nous dit tu peux accéder à tes extensions avec l'URL chrome://extension au pluriel. Sur Chrome, il y a une autre solution. Hein, tu cliques sur la petite pièce de puzzle et puis. Attends, je vais le faire sur un autre navigateur. Tu cliques sur la petite pièce de puzzle et gérer les extensions, par exemple.
Ouais.
Voilà, donc pas mal de choses intéressantes. Une dernière. Je sais que tu aimes bien en parler de celle-ci, des petits correctifs quelques correctifs de sécurité qui sont importants. C'est toujours bien d'en parler.
C'est moi qui la rajoute. Dans Google Chrome 113, il y a 15 correctifs de sécurité. Ils n'ont pas partagé les détails. Donc là, on ne sait pas. On sait juste qu'ils ont déboursé un peu plus de $30,000 donnés aux personnes qui ont découvert les problèmes de sécurité et partagé des informations dans le cadre du programme de prime aux bugs de Google. J'aime bien toujours le dire parce que bah il y a toujours des correctifs de sécurité comme dans n'importe quel écosystème, hein, c'est pas spécifique à Chrome OS, mais ça peut rapporter si vous en trouvez un en tout cas. Et je sais qu'il y en a qui sont un peu spécialistes de la chasse aux bugs. Et dites-vous que sur cette version Chrome 113, il y en a un peu plus de 15. Voilà, c'était la petite minute.
Attention, tous les bugs ne sont pas... Moi, j'en déclare beaucoup, mais ce n'est pas des bugs rémunérateurs. Hein. Ce n'est pas des bugs qui vont mettre en péril Chrome OS ou les données de l'utilisateur. Ce qu'on peut dire, sans même en savoir grand-chose, 30 000 $, donc ce n'est pas grand-chose hein, pour Google. C'est une pacotille, c'est une poussière de paille. Ça veut dire simplement déjà qu'on peut se douter qu'il n'y a pas de failles 0-day qui ont été découvertes, donc les failles très, très importantes sur Chrome OS parce qu'elles sont... beaucoup mieux payé que ça, une seule faille. Voilà.
On peut parfois aller à 20 000 $ la faille pour une faille 0-day. Donc là, 30 000 pour 15, on est sur des failles, je ne te dirais pas mineures dans le sens où une mineure, comme tu dis, n'est pas forcément payée, une moyenne gamme, on va dire. Mais
C'est pas mal déjà.
C'est déjà pas mal, ouais.
Exactement. Et je peux en profiter pour dire à tout le monde, faites vos mises à jour. Les mises à jour, c'est pas que des mises à jour de nouvelles options, de nouvelles applications, de nouveaux designs. C'est surtout des mises à jour de sécurité. Et je vois trop d'utilisateurs ne pas mettre à jour leurs appareils, que ça soit leur smartphone, que ça soit leur Chromebook, que ça soit leur PC Windows ou quoi que ce soit. Les mises à jour ne sont pas faites. Je ne comprends pas. C'est vos données personnelles qui sont en jeu. C'est tout ce que vous faites dans votre quotidien. Et Dieu sait qu'on en fait de plus en plus sur nos smartphones. On a notre vie privée tout à l'intérieur de ça. Et tu vas me dire, ouais, mais sur Chromebook, les mises à jour se font toutes seules. Je vais te dire oui, mais il faut quand même cliquer sur le bouton redémarrer son Chromebook. Et j'ai vu des gens, je ne vais pas citer ces personnes-là, mais j'ai vu des gens être en Chrome 89. Ouais. Chrome OS 89, c'est il y a 20 versions, quoi, 30 versions. Et c'était il y a 4 jours que j'ai vu ça.
Ouais, mais de toute façon, dites-vous qu'une mise à jour de sécurité ou une mise à jour, si elle est là, c'est qu'elle est nécessaire. Donc, même si vous ne la faites pas forcément de suite, mais parce qu'il n'y a pas que de l'ajout de fonctionnalités. À la limite, vous bénéficiez pas de fonctionnalités et de nouveautés, c'est votre problème. Maintenant, des mises à jour de sécurité, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir, mais c'est quelque chose qui vous protégera. Donc, faites-le parce que c'est important.
C'est important.
N'allez pas vous plaindre après, derrière, comme quoi l'informatique n'est pas forcément sécurisée. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place. C'est un petit travail, mais il faut le faire. Il faut redémarrer. Version 89, redémarrer. C'est pas normal. 89,
c'est pas... Non, mais 89, la personne...
Je sais pas qui c'est. Coup de gueule. Voilà.
Je ne vais pas balancer la personne, mais ça veut dire quand même que le Chromebook n'a jamais manqué de batterie une seule fois. Et qu'il n'a jamais été éteint. Donc, ça veut dire qu'on a juste clapé l'écran. Il a été mis en veille depuis...
Si c'est une utilisation qui n'est pas énorme, que tu branches un peu, c'est possible, hein, mais fait un peu loin là quand même.
Pour ça fait loin, oui, on est d'accord. Continuons sur Chrome 113, je pense qu'on a fini, on a fait le tour rapidement, ce qui est plutôt pas mal. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres informations dans le chat, dites-le nous. Ceux qui nous suivent en podcast, vous pouvez nous laisser des commentaires dans le podcast d'ailleurs pour nous dire ce qui va bien, ce que vous avez détecté et qui n'a pas été mis en valeur par nous. Allez-y, n'hésitez pas à nous donner toutes les informations que vous voulez et rebondir sur ça d'ailleurs. Continuons sur cette fois les Google News. Alors, on n'en a pas mis beaucoup parce qu'on savait que le programme serait chargé. Mais les Google News, Sylvain, tu voulais en amener quelques-unes. On va faire ça rapidement. Il y en a plein. Hein. On pourrait faire des podcasts entiers sur les news Google par semaine. Mais on en a sélectionné deux qui nous semblaient être intéressantes à plusieurs points de vue d'ailleurs. Je te laisse le premier parce que je sais que tu es fan. Et je vais le tester normalement demain si tout se passe bien.
D'accord. Alors, le premier, c'est l'arrivée du Google Play Game sur Windows. Donc, tu as le Google Play Game sur PC qui est maintenant disponible en France. En gros, c'est une appli Windows qui te permet d'accéder aux jeux d'Android via une émulation. Donc, ça diffère un peu du travail de Windows, tu sais, pour prendre en charge les applications Android sur Windows 11 qui passent par Amazon de base, qui ne passent pas par les serveurs de Google. Et avec le Google Play Game sur PC, tu auras accès à des dizaines de jeux sur Android. Tu pourras synchroniser ta progression entre ton PC et ton mobile. Très bonne chose. Ouais. Et par contre, pour l'utiliser, ils nous ont annoncé quand même des caractéristiques techniques. Il faut au moins 10 gigas d'espace de stockage. C'est pas déconnant. Hein. C'est à peu près ce qui est demandé quand tu fais un conteneur Linux, je crois, sur Chrome.
C'est ça. C'est, par défaut, ils proposent 10 gigas.
Et 8 gigas de RAM sur le PC. Maintenant, ce qui est quand même assez courant en règle générale. Et tu peux télécharger l'application. Donc, voilà, en fait, il est vrai que Windows avait dit, bon, on va vous amener du Android. Il l'avait contourné en passant par Windows, enfin par Amazon, pardon. Et puis bah là, et c'était pas forcément très simple et très intuitif pour l'activer et le mettre en place. Ça n'a pas forcément très bien pris à l'heure actuelle. Ce qui fait que là, bah, Google se dit, bah, nous, on va vous amener. Vous voulez développer. Ils développent hein, de plus en plus. On voit des rapprochements avec des services Apple qui sont disponibles sur Windows. Maintenant, tu as du Google Play Game qui arrive. Si tu as des petits jeux, alors faut peut-être pas s'attendre à des jeux incroyables, mais tu sais, moi, j'aime bien avoir des petits jeux de gestion ou ce genre de choses. Bon, tu peux être amené à pouvoir le lancer, l'installer, jouer, synchroniser entre ton téléphone et ton PC Windows, si vous avez dit Windows, bien évidemment. C'est bien, c'est bien. Et puis, on voit que ça se développe un peu avec les différents écosystèmes confondus. Donc, tu testeras demain, tu m'as dit.
Ouais, je vais tester demain. Je me procure un PC Windows exprès pour ça, qui devrait avoir les ressources nécessaires. Et je suis impatient de tester parce que tiens, hier, j'ai relancé un jeu Fallout. Je ne sais pas si tu connais
Fallout
un petit
76,
peu.
76, le dernier.
67, ouais, le dernier qui est en version qui existe sur Android. Donc j'ai retéléchargé le jeu. Il fonctionne super bien sur Chromebook. Il se met en plein écran. C'est toujours le même kiff pour moi de jouer à ça. C'est un petit jeu de gestion qui est plutôt marrant, qui a bardé d'humour un petit peu à droite, à gauche. Et je suis curieux de voir si ça peut marcher sur un PC.
C'est le Fallout Shelter.
Ouais, Shelter,
gérer un abri souterrain avec. Ouais, ouais, c'est ça. Graphiquement, ça ne demande pas grand-chose. Par contre, c'est un vrai petit jeu de gestion. C'est pas mal, ouais. J'ai déjà pas mal joué, j'aime beaucoup.
J'ai créé des couples, j'ai des enfants. C'est génial. Moi, je trouve ça marrant. Il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup.
Je suis pas un grand fan de jeux sur mobile. Par contre, j'adore les petits jeux de gestion. Tu sais, gérer une taverne, gérer un abri souterrain. Ces petits jeux de gestion avec du clic comme ça, j'aime beaucoup. Et celui-ci, j'avais beaucoup joué. Et c'est vrai qu'il est très sympa.
Ouais. Donc, je l'ai relancé. On va voir. Je testerai demain s'il est disponible. Tiens, moi, je voulais donner un petit... Alors, pour info, toutes les news qu'on a apportées, qu'on a données là, évidemment, elles ne sont pas toutes sur mychromebook.fr, donc on donne tous les liens des articles sur lesquels on l'a vu. Si vous voulez avoir plus de détails dessus, allez sur dans le conducteur de l'émission, que vous retrouverez le lundi 29 mai à 18h sur le site mychromebook.fr, il y aura tous les liens pour aller pêcher plus d'informations sur tout ce qu'on a dit, hein, tout simplement. Et puis, quand c'est sur Microbook, je vous redirige directement sur l'article en question. Allez, là, celui-ci, c'est un petit coup de gueule. Je pourrais en poser deux, mais je vais mettre celui-là. Vous regardez YouTube. On est de plus en plus nombreux à regarder YouTube sur nos PC, évidemment, sur nos smartphones, naturellement, mais également sur nos télévisions. Alors, je ne sais pas si tu le fais déjà, toi, regarder YouTube sur ta télé, Sylvain.
Ouais, via la Google TV.
Ouais, via Google TV, par exemple, ou les applications internes sur Samsung ou les choses comme ça, ou tu as l'application YouTube qui est pareil, ou sur les box de ton opérateur, par exemple. Tu as les Android TV, les Google TV qui sont sur les box opérateurs.
J'ai tout enlevé, j'ai mis la Chromecast Google TV et j'ai tout centralisé. Mais après, moi, j'ai le YouTube Premium. Donc,
bien joué, bravo. C'est important d'avoir ça parce que ben oui, ça coûte combien d'ailleurs YouTube Premium?
Alors moi je paye, tu sais, l'abonnement pour 6 personnes, famille, 17,99€. Ça t'intègre 6 YouTube Premium et 6 YouTube Music.
Ah, c'est pas mal. Différent donc, en plus.
Différent. Moi, ouais, chacun a ses playlists et autres, et donc c'est intéressant. Et si par exemple, je le dis parce que le compte famille que tu utilises, si par exemple j'achète un livre, j'achète un jeu ou ce genre de choses, je peux décider de le mettre à disposition de mon groupe famille. Ils peuvent y jouer, ils peuvent le lire. C'est très rare que certaines applications ne puissent pas le faire. Et en gros, je suis avec des potes et chacun investit quelques euros pour des livres, des trucs. On a un truc monstrueux avec des livres, des séries, des films, des jeux, beaucoup de choses.
C'est top. Effectivement, c'est une bonne solution. Surtout que Google a lancé un test. Alors, tu le savais, il existe de la pub. Hein. Quand tu regardes YouTube, tu vois, il y a Live Athenium qui me dit, oui, moi, je les regarde. Enfin, c'est pour ses enfants. Et il paye 9,99€ par mois. Donc, ça ne doit pas être le compte famille, ça. Ou alors, tu as une super astuce. Mais sur YouTube, tu as de la publicité, sauf si tu as le compte premium. Et Google se dit, plus en plus de gens qui mettent des ad blockers pour bloquer les publicités sur YouTube, on perd de l'argent ou on en gagne moins. Il serait bien temps d'en gagner un petit peu plus. Les temps sont durs, c'est difficile, il nous faut du pognon. En l'occurrence, Google est parti en se disant, mais où est-ce qu'on peut mettre plus de pubs sans qu'on nous les bloque? Et bien, c'est pas très compliqué. Ils se sont dit, sur la télé, on ne peut pas mettre de bloqueurs de pubs. alors on va caler 30 secondes de pub. C'est un truc de ouf, c'est que tu pouvais avoir déjà jusqu'à 15 secondes de publicité sur tes pubs YouTube que tu ne pouvais pas passer, en fonction de si le YouTuber avait décidé de mettre une pub bloquante ou pas, enfin que tu es obligé de la regarder. Et là, si tu mets, il y aura donc ces 15 secondes de pub si le YouTuber le veut, mais pire encore, c'est que si tu mets sur pause ta vidéo que tu es en train de regarder, Google va en profiter pour balancer 30 secondes de pub. Donc, ce qui fait que Google va, sur une vidéo, sur toutes les vidéos, avoir en moyenne 30 secondes de pub, sauf si tu es en premium, quoique, on ne sait pas encore, mais a priori, ça devrait, enfin, il y aurait plus d'intérêt d'avoir de compte premium s'ils en mettent aussi sur ces comptes-là. Mais voilà, moi, je voulais taper un petit coup de gueule là-dessus parce que je trouve ça pas sympa de nous mettre plein de publicités même quand tu mets en pause. Allez voir, c'est Tom's Guide qui nous, je vous laisserai le lien dans les notes de l'émission, qui a révélé le truc. Et franchement, je trouve ça aberrant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Sylvain.
Ouais, ça génère sans dire. Ça génère de l'argent, la pub?
Ouais, je crois beaucoup, mais pas chez moi. Enfin,
pas tant que ça, non, mais.
Non, pour nous, non, mais pour Google, oui.
Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Live Athenium, oui, j'ai parlé, moi, que de l'abonnement famille. Il y a l'abonnement solo qui, lui, est à 9,99€. Je ne l'avais pas précisé. Ouais. J'avais développé que l'abonnement pour 6 personnes, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Et Live Athenium a aussi, parce qu'il est beau, c'est une réduction particulière chez Google. Ouais,
c'est voilà. Après, que veux-tu?
Private joke entre lui et moi, hein, voilà, pour ne pas générer de malaise. Il me comprendra.
Tiens, regarde. Tu as vu l'image que je mets? Ça vient pile poil avec la transition que tu viens de me donner. Il est beau, il y a du cœur, de l'amour, tout ça. Du coup, il est temps de parler de nos coups de cœur.
C'est ça.
Je vais te laisser parler du tien. Je reprends mon souffle et puis je reviens dans une petite seconde.
Très bien. Alors moi, mon coup de cœur, c'est le coup de cœur de Thierry, pour le coup, qui m'en a parlé, qui est Low-Code Vision Assistée. En gros, c'est une application qui utilise la vision par ordinateur. En gros, vous pouvez télécharger sur Android. Moi, je sais que je ne peux pas la télécharger sur mon Chromebook. Mais pour les personnes qui ont une déficience visuelle ou non-voyante, ça peut permettre de gérer et accomplir des tâches plus simples, plus simplement et plus efficacement. Donc, ça utilise l'appareil photo du téléphone et ça fait comme une analyse. Tu sais, tu vas mettre ton appareil devant, ça peut te lire un texte, ça peut te lire un document, ça peut te lire des devises. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Vous testerez parce que ça peut être intéressant et puis de voir peut-être un peu le quotidien des personnes qui peuvent avoir une situation de handicap, voir un peu les aides qui existent et ce que ça peut apporter. Et voilà, Thierry m'en a parlé. Je me suis dit que j'allais en parler ce soir. Je sais qu'on en a parlé, toi et moi, Nico. Il y a aussi ChromeVox qui existe de base nativement sous Chrome OS. Quand vous avez fait un PowerWash ou vous utilisez un Chromebook pour la première fois, souvent ça vous le demande, est-ce que vous voulez utiliser ChromeVox? Moi, je l'ai fait une fois et effectivement, on peut tout faire à la voix. Et sur Android, il y a Talkback, mais c'est pas ouf la gestion et l'utilisation, mais ça existe. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses et on parle souvent de petites astuces de comment mieux fonctionner, trouver ses parcours de recherche. N'oublions pas qu'il y a des gens en personne à handicap et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour cette accessibilité là.
Ouais, et à tester, hein, franchement, c'est bien. Google Lens pourrait peut-être travailler aussi dessus, tu vois, lire ce qu'il voit quand tu prends en photo, ça pourrait être quelque chose d'intéressant en tout cas. Ouais. Une bonne solution. Je crois qu'en plus, l'application est gratuite dans mes souvenirs. Donc, il faut. Oui. Je suis allé voir vite fait pendant que t'en parlais.
Oui, c'est du Google, hein, c'est fait par Google. Hein.
Ouais. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, allez-y, allez tester tout ça et dites-nous ce que vous en pensez. Et comme tu le disais, Sylvain, ça peut servir à tout le monde. Donc, il est super intéressant. Continuons un petit peu. Une autre évolution, enfin, mon coup de cœur. J'en ai fait un article courant de la semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Je partage énormément d'informations de mon smartphone à mon Chromebook ou à d'autres appareils et des personnes me transfèrent des informations. Alors, même si Phone Hub marche plutôt bien pour faire du transfert de mon téléphone à mon Chromebook. J'utilise également le partage à proximité. Parfois, c'est compliqué. Il faut une connexion Internet. Ce n'est pas toujours très simple de partager des données. Alors, on peut avoir recours à un truc tout simple, hein, la clé USB. Ouais, super, tu mets une clé USB, tu mets le fichier dessus, tu le donnes à la personne, il te rend ta clé USB. Bon, bref, il manque de la place, il faut supprimer. Bref, c'est très, très compliqué. Et, ou alors, tu peux mettre sur Google Drive et partager ton Google Drive. Moi, j'ai une application qui est open source, disponible partout, Linux, Android, Chrome OS, Windows, Mac OS, qui s'appelle LocalSend, qui permet de créer... Pardon ?
Bel accent. Non, je... Pour une fois qu'on fait un accent anglais qui tient la route, j'ai été surpris. Pardon, excuse-moi. Pardon. Je t'ai coupé dans ton truc. J'ai été surpris.
Donc, LocalSend permet de partager des fichiers. Et ce qui est génial, c'est que tu as juste à installer l'application une fois pour toutes et tu n'as même pas besoin de te synchroniser à un de tes collègues, à un de tes amis, à quelqu'un de tes connaissances. Il suffit d'avoir l'application. Chacun lance l'application de son côté. Il y en a un qui se met en « je reçois » et l'autre qui fait « j'envoie ». Et on colle le fichier, ça l'envoie tout seul, la réception quasi instantanée. Ça n'a pas besoin de connexion Internet à part d'une connexion Wi-Fi. Donc, une connexion Wi-Fi, attention, ce n'est pas une connexion Internet, c'est une façon de se connecter à un service qui, derrière, peut être connecté à Internet. Mais ça va avoir besoin uniquement du Wi-Fi interne de nos appareils. Donc, ils vont communiquer ensemble. Et ça, c'est génial parce que si tu es dans une pièce où il n'y a pas du tout de réseau, avec ça, vous activez les Wi-Fi de vos appareils, vous pouvez transférer des données l'un à l'autre et ça marche super bien sur Chrome OS, sur à peu près tout ce qui existe. Et moi, j'ai été surpris. Donc, dès que je l'ai testé, j'ai trouvé ça tellement génial que j'en ai fait un article.
Bah, tu as bien raison. Voilà. Je testerai.
Ouais, test. Avant de nous quitter, parce que tu as vu, on a fait une heure tout pile poil, on est de mieux en mieux, hein, décidément. Si vous êtes encore sur l'épisode, au bout d'une heure d'épisode, que vous appréciez notre travail, ce qui est produit sur Microbook, ce qui est produit sur le CKB Show, n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de nous laisser un pouce en l'air, de nous laisser un commentaire une fois que la vidéo est terminée. Dites-nous ce que vous avez pensé, à amener peut-être votre expérience sur certains items dans les commentaires. Dites-moi, Google Play Games, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie qu'Android soit aussi sur Windows. Je n'ai pas envie que Google ajoute des nouvelles fonctionnalités WebGPU ou alors au contraire, oh, mais qu'est-ce que j'ai génial Google Meet avec cette nouvelle évolution graphique. J'adore. Allez-y dans les commentaires, dites-nous tout. Je vous répondrai je répondrai à tout le monde. Mais faites-le également sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez partager nos produits, nos épisodes, nos articles. Et puis évidemment, partagez à vos amis. Et si vous pouvez nous mettre des petites étoiles dans les yeux, comme dirait l'autre, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, sur Spotify, laissez des commentaires. Ça nous aide énormément. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, 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 allez, patreon.com/microbook, patreon.com/microbook, et vous pouvez nous soutenir même financièrement, comme a pu le faire Jean-Luc au début de cet épisode, avec un beau billet. Merci encore à toi, Jean-Luc. Voilà, donc ça, c'était les petites choses d'usage. Et Sylvain, avant de nous quitter, tu voulais lancer une dernière chose, une dernière information qui a une importance énorme, je pense. Donc, je te laisse la main, la voix en tout cas.
Prendre la parole, effectivement, dans cette émission. Je ferai très bref. Toutes les bonnes choses ont une fin et la vie est un éternel cycle et de nouvelles aventures. Et ce soir est ma dernière émission donc dans le CKB Show. Donc voilà, je tenais à remercier Nico déjà parce que tu m'as donné cette opportunité de le faire, de découvrir des gens CSR et de découvrir un peu le podcast, de parler en public et de ce genre de choses. Donc je t'en remercie et merci à tous ceux qui ont été là, avec qui j'ai pu même pour certains devenir des amis, parler, profiter et pouvoir rencontrer des gens. Et puis j'ai essayé en tout cas à mon niveau, avec souvent des phrases beaucoup trop longues qui n'avaient peut-être pas de sens tout le temps, mais j'ai essayé de vous faire vivre le mieux possible ma passion de la technologie en parlant parfois de Windows, de Chrome OS, un peu de tout. Vous avez pu voir, je suis assez zébulon pour beaucoup de choses. Et voilà, je tenais à vous remercier et à vous dire que ce n'est qu'un au revoir. Et bien évidemment, je continuerai à être disponible sur les réseaux sociaux ou autres. On peut toujours parler.
Ben oui. Ben écoute, à mon tour de te remercier d'avoir... Ça fait quoi ? Un an et demi que tu es avec nous ?
Un an et demi.
C'était un plaisir de t'avoir en face de moi tous les deux dimanches soirs à peu près. Et moi, il y a un truc que je retiens et qui me fait énormément plaisir, c'est que on crée des rencontres au fur et à mesure tout au long de notre vie. Et en l'occurrence, c'est une rencontre assez intéressante qu'on a eue. Je garde de bons souvenirs. J'en garderai toujours. Et ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai été, comment dire, l'investigateur d'une belle rencontre entre toi et Thierry, à tel point que, alors je crois que vous, je sais pas si on l'a déjà annoncé, à tel point que vous avez décidé de faire votre propre podcast. Alors c'est peut-être le moment d'en faire une petite promotion histoire de récupérer quelques personnes. Un podcast qui, si j'avais eu plus le temps, je l'aurais fait avant. Tu te souviens, j'avais parlé d'un projet un peu plus compliqué, mais je trouve ça génial. Un podcast qui est hyper intéressant, très court, 10 minutes en moyenne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant de partir, avant de nous lâcher une dernière larme?
Bien sûr, bien sûr. Alors le but, voilà, je te remercie de nous laisser l'occasion d'en parler, hein. T'étais pas obligé de le faire, mais on a lancé un podcast qui s'appelle Au fait, c'est quoi ? Vous retrouverez tout sur @aufaitcestquoi.fr. C'est un podcast en gros sur des sujets dont on entend parler, des termes à peu près au quotidien. On sait ce que c'est, mais pas vraiment. Donc ça peut être par exemple un 49-3, tout le monde sait ce que c'est, mais dans le détail, est-ce qu'on sait vraiment le compteur Linky, les scores au tennis, là, il y a pas mal de choses et on essaye de vulgariser, on n'est pas du tout dans le domaine de la tech, on est vraiment dans des domaines les plus grands et les plus développés possibles et ça dure une dizaine de minutes et on essaye de, voilà, de, dans un dialogue, de vous faire découvrir des termes et de vous donner un peu plus de sens.
Oui, effectivement. Allez voir, allez écouter. Alors, tiens, on va répondre à deux, trois questions. Non, pas des questions. Alors, c'est des « Oh, triste, il part sur une île déserte. » Bon, ben, il est pas beau, alors, en fait, Sylvain. Oh, Didier. Qui va le remplacer? Qui va animer le CKB Show? Alors, je serai toujours là, moi, de toute façon. On aura, j'espère qu'on aura d'autres invités également, peut-être des personnes plus qui viendront plus souvent aussi. Sinon, bah, vous inquiétez pas, même si je suis tout seul, j'arriverai à parler une heure, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. J'en profiterai peut-être pour changer un peu le format, peut-être plus axé sur la découverte d'articles que je n'ai pas pu traiter, de sujets que je n'ai pas pu traiter sur Chrome OS, parce que pas le temps d'écrire un article, mais je l'ai lu. Et peut-être qu'on on débroussaillera les articles d'autres podcasts, d'autres sites. Dites-moi ce que vous en pensez, comment on peut faire évoluer le CKB Show également, parce que c'est toujours sympa. Évidemment, je suis sûr que si un jour j'invite Sylvain, il viendra nous voir un petit coup. Je pense pas qu'il... Voilà, on est tous d'accord. Donc, non, c'est pas... Pourquoi pas? Oui, on pourra peut-être aller voir Google Bard. Ouais, qui non, Google Bard remplacera jamais Sylvain. Enfin, voilà, non, on va...
C'était une très belle aventure. On a toujours bien travaillé. On a toujours essayé de faire découvrir les choses. Voilà, et puis parfois, la vie fait qu'on a aussi ses propres projets qu'on a envie de mener. Parfois, il faut passer à autre chose. Mais j'en garde très bons souvenirs et c'était très cool. Et encore une fois, merci à toi, Nico.
Eh ben, merci à tous. Écoute Sylvain, je te souhaite une bonne route, une bonne continuation. Nos chemins merci. Se recroiseront, j'en suis quasi certain. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Et puis plus encore, hein. Allez, bye bye.
Merci à tous, ciao ciao tout le monde.